Classique, sans complexe. Vous êtes tous mélomanes à votre insu.
Classique, sans complexe, tous les jeudis de 15h à 16h, vous pouvez nous écouter sur 106,6, campuslille.com ou sur le DAB+.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce jeudi 12 juin. Et figurez-vous que dans 9 jours, c'est l'été, c'est le jour le plus long, 21 juin. Ça passe vite, hein, et ça chauffe déjà, puisque nous sommes à 31 degrés cet après-midi. Voilà, en tout cas à Villeneuve-d'Ascq, dans les studios, pas dans les studios, heureusement, autour des studios. Voilà, donc une émission un peu particulière. Je vais commencer par les concerts, comme chaque fois. Alors pour les nouveaux auditeurs, parce que je vous rappelle cette émission à des fidèles, merci aux fidèles, c'est sûr, mais il peut toujours y avoir des nouveaux auditeurs. Elle peut se prendre à n'importe quel moment, puisque le classique, c'est pour tout le monde. C'est un peu le message pour expliquer l'émission. Depuis 11 ans que je l'anime. Et le but, c'est de dire que le classique, c'est pas du tout réservé à une élite. C'est pas cher. C'est pas inaccessible. Il n'y a pas besoin de connaître. J'y connais rien, souvent, j'entends. Pas besoin d'avoir des connaissances pour écouter. Il faut écouter et apprécier. Et après, quand on a écouté, qu'on a eu un coup de cœur, qu'on a reçu des émotions d'une musique, par essence, normalement, on est curieux, on se dit qui est le personnage, compositrice ou compositeur qui a fait ça. On s'intéresse, on lit, on retient, puis on en parle à ses amis autour. Allez, comme on en parle avec enthousiasme, avec des détails sur le compositeur, on dit, oh, on y connaît beaucoup. Hein. Les gens croient qu'il faut connaître pour aimer. Non, il faut aimer pour connaître. C'est toute la différence. C'est ça le message de Classique sans complexe depuis 11 ans. On continue. Et parmi les moyens d'accéder à la musique classique, contrairement aux idées reçues, il y a les concerts. Alors ce n'est pas réservé à une élite du tout. Je vous assure que quand vous allez à un concert, vous payez votre place, vous asseyez et vous écoutez, comme au cinéma. On ne vous fera pas passer une interrogation écrite en vous demandant les dates de Beethoven, le nombre de compositions, tout ça. Il n'y aura pas d'interrogation écrite pour rentrer. Donc il n'y a pas de connaissance préalable. Vous asseyez, vous écoutez. La seule chose, c'est qu'il faut écouter dans un silence parfait pour respecter à la fois les musiciens qui jouent devant vous, en chair et en os, avec du son direct, naturel, pas d'amplificateur, pas de micro, pas d'électronique. Du son direct des violons, des pianos dans vos oreilles. C'est l'air qui vibre de la salle. Et respectez les auditeurs qui sont à côté de vous. Donc il faut un silence complet, c'est la seule différence. Essayez de ne pas applaudir entre les mouvements, c'est tout. Il y a quelques règles de base, c'est tout. Et ça se passe toujours très bien, il n'y a pas de problème. Et on ressent des émotions ou non. Mais en fonction de ce qu'on ressent, on peut retourner au concert. Voilà. Donc, je vous présente toujours des concerts. Nous sommes en fin de saison de beaucoup d'associations. En même temps, au début de quelque chose, vous allez voir tout à l'heure. Donc, chambre à part, nos amis, donc on donnera un concert le 8 juin, magnifique concert au couvent des Dominicains, j'y étais. Le prochain, ce sera le 22 juin, au conservatoire Place du Concert à Lille, aussi dans le Vieux-Lille. Et nous aurons le droit au quintet pour deux violons, alto et deux violoncelles, en ut majeur de Franz Schubert, que nous pourrons écouter cet été, vous verrez tout à l'heure. Donc ça, c'est le 22 juin. Et le 6 juillet, chambre à part continue. Le dernier concert aura lieu à 11h, et ce sera un changement de programme. C'est Ken Sugita, le violoniste qui joue à l'Orchestre de Lille et qui jouera au violon, et son fils au piano, Antoine Sugita, qui écrit aussi des textes, puisque père et fils, Ken et Antoine Sugita, joueront des œuvres écrites et improvisées autour des poésies d'Antoine Sugita. Voilà. Donc c'est le conservatoire le 6 juillet. Ensuite, Quatuor en Liberté, leur saison est terminée depuis le mois de mai, même avril, je ne sais plus. Ben, c'est terminé, ça reprend en septembre, je vous donnerai les dates des premiers concerts. Mais l'événement aussi de ce week-end, c'est le Lille Piano Festival, qui fête sa 22e édition. Il a été écrit par Jean-Claude Casadesus et Gabi Casadesus, la femme du grand pianiste Robert Casadesus, qui n'est pas son père, mais un grand-oncle, un arrière-cousin, je ne sais plus. Vous avez un site sur toute la famille Casadesus, tout à fait passionnant. Vous avez toutes les filiations, tous les liens entre Gisèle Casadesus, l'actrice, qui est la mère de Jean-Claude Casadesus. Et c'est Jean-Claude Casadesus lui-même qui dirigera l'Orchestre National de Lille pour le concert d'ouverture qui aura lieu le vendredi 13 juin à 21h au Casino Barrière, parce que je vous l'ai expliqué l'autre fois. Le Nouveau Siècle est en travaux. Donc ça sera au Casino Barrière, donc vous voyez où c'est, dans Lille. Et Jean-Claude Casadesus dirigera l'ouverture d'Oberon de Weber et accompagnera un pianiste Bouezod Abdourahimov au piano dans le célèbreissime concerto numéro 1 pour piano et orchestre de Tchaïkovski. Et après, je vous laisse découvrir les programmes. Pour ça, vous faites Lille Piano au pluriel Festival sur Internet, dans un moteur de recherche. Vous aurez tous les détails. Et il y a des récitals de musique classique, bien sûr. C'est l'origine du festival. Il y a beaucoup, énormément de jazz et d'autres types de musique. Et j'ai oublié ce soir, si vous pouvez commencer ce soir, dans la cour de la maison natale de Charles de Gaulle, 9 rue Princesse dans le Vieux-Lille, il y a un concert qui mêle art celtique, très original, accordéon diatonique et percussion. Donc ce soir, à 18h30, dans la cour de la maison natale de Charles de Gaulle. Donc je ne sais pas s'il reste des places. Essayez de voir, ça commence dès ce soir. C'est sur 3 jours pleins, mais ce soir, il y a déjà une petite entrée. Mais le concert d'ouverture officiel, c'est le 13 juin, demain, à 21h, au concert Casino Barrière. Voilà. Pour les concerts, ce qui nous reste. Et l'Orchestre National de Lille, sa saison est terminée. Et puis, l'Atelier Lyrique de Tourcoing, je crois qu'il n'y a plus, pratiquement plus de concerts. Mais la saison 2025-2026, c'est déjà reprogrammé. Moi, j'ai reçu la brochure. Et donc, sur Internet, vous pourrez trouver Atelier Lyrique de Tourcoing pour préparer les spectacles que vous aurez envie de voir l'année prochaine. Mais l'événement de l'été, sur Lille, la métropole lilloise, donc, c'est le festival Clé de Soleil. Et nous avons la chance de recevoir, comme l'année dernière, son directeur artistique depuis l'origine, si je le sais. C'est depuis 2002.
Ça fait 25 ans cette année.
Voilà. Denis Simandi. Bonjour, Denis.
Bonjour.
Alors, Denis, je vais le présenter sommairement, mais de manière minimale mais forte. C'est un musicien extrêmement polyvalent. Il est corniste, joueur de cor. Il est pianiste. Il est chef d'orchestre à 16 heures. Il est organisateur de concerts. Nous allons en parler, dont le Festival Clé de Soleil. Et puis, il est très mélomane et très historien de la musique, puisqu'il propose des conférences, je crois, à la FNAC de Lille, mais ailleurs aussi. Donc, vous pouvez faire appel à lui pour des présentations des compositeurs, d'une manière très documentée et en même temps très pédagogique. Il a des dons de récitant, de lecteur, puisque dans le Festival Clé de Soleil, il interviendra dans un concert pour réciter des textes. Voilà, Denis, enchanté de revoir. Donc une saison un peu particulière, parce que vous avez tous entendu l'actualité. La France a un budget extrêmement serré, et ça se répercute jusqu'aux associations qui ont de moins en moins de subventions. C'est le cas de Radio Campus, je ne vais pas vous développer ça dans cette émission, mais sachez-le, ce n'est pas facile de trouver des subventions. Et pour Clé de Soleil, ça se voit pour nous mélomanes. Pourquoi ? Parce qu'il y a 7 concerts de programmés, alors que les autres saisons, c'était plutôt 9 ou plus. N'est-ce pas, Denis, donc ?
Oui, on a supprimé le premier concert en début juillet et le dernier concert fin août.
Mais avec ces conditions matérielles restreintes, tu vas réussir à nous enchanter notre été. C'est ce que je dis toujours quand je présente le Festival Clé de Soleil. Je dis, ce sont ceux qui éclairent notre été, musicalement.
C'est très gentil.
Ben non, c'est...
Ça, oui.
Dans ma grande bibliothèque, j'ai un livre qui s'appelle « Ne soyez pas gentil, soyez vrai ». Hein ? Si, si. Ne soyez pas gentil, soyez vrai. Dites ce que vous pensez, mais ne soyez pas gentil par facilité.
Oui.
Ou pas, dites des choses sincères. Donc c'est vrai que ça illumine notre été, parce que toutes les saisons s'arrêtent, je vous l'ai dit. Et ça reprend qu'en septembre, donc pendant l'été, il y a Clé de Soleil, l'exception. Pardon. Donc cette année, 6 concerts, mais néanmoins riche. On retrouve des musiciens que nous connaissons déjà, auxquels l'équipe de Clé de Soleil est très attachée. Je pense à Alexandre Palais, Gauthier Dogue. On dit Dogue ou Doug ?
Doge.
Doge. Ah oui, Doge. Ah,
Palais est un peu le fil rouge. Il est l'invité, j'allais dire, permanent de ce festival, parce que c'est un pianiste tellement fantasque et tellement...
Alors rappelle-nous, il a quel âge environ ?
Il arrive à 70 ans.
Ah oui ?
Mais
oui,
oui. Il a une possibilité, on va dire, de pratiquement une cinquantaine de récitals clés en main, prêts tout de suite, par cœur. C'est assez hallucinant comme personnage.
Bah, son jeu est fluide et très physique, très engagé.
Oui, et puis jamais le même. Il ne joue jamais de la même façon. Ah, oui. Alors moi, je fais beaucoup de musique de chambre avec lui et c'est toujours très... presque inquiétant, parce que quand il entre la lecture, puisqu'on fait en général une lecture, je vais très souvent au Moulin d'Andée, où il a une semaine qui lui est consacrée. Moi, je suis invité tous les ans là-bas.
Très beau lieu, oui.
Mais on fait juste une lecture à 15h et on fait le concert à 19h. Donc il n'y a pas 36 répétitions. Mmh. Et il peut changer le tempo du simple au double entre la répétition, et que ce soit dans un sens ou l'autre. Hein, jouer deux fois plus lent au concert. Donc il faut toujours être sur ses gardes, mais c'est toujours passionnant.
Et pour le mélomane très curieux que je suis, ce que j'ai noté chez Alexandre Palais, c'est que c'est un des rares à avoir enregistré toute l'œuvre pour piano de Mili Balakirev.
Oui.
Un des membres du groupe des cinq, avec Rimsky-Korsakov, Moussorgski, Borodine.
Entre autres, il a fait une intégrale César Cui, il a fait une intégrale... Ouais, c'est colossal, sa discographie.
Oui, mais ça montre une curiosité, parce que...
Oui, et une intégrale Rameau.
Oui. Peu de gens osent jouer du Balakirev en concert.
Oui, à Paris Islamé.
Oui, Islamé, et encore, j'ai jamais eu... Je l'ai entendu une fois, je crois, dans ma vie de mélomane, mes premiers concerts datent de plus de 50 ans.
C'est considéré comme une des œuvres les plus difficiles, avec l'Oscar Beau chez Ravel.
Islamé de Balakirev, une œuvre orientaliste magnifique.
Oui, oui.
Et c'est un des fondateurs du groupe des cinq, mais c'est pas le plus connu. Voilà, donc Alexandre Palais sort des Antibattus. Que vas-tu nous jouer, Alexandre Palais, cette année?
Alors, Alexandre Palais, on a décidé de se programmer à deux pour les harmonies poétiques et religieuses de Liszt.
Ah oui, j'avais dit que Denis avait des dons de récitant.
Voilà, donc moi je serai récitant et je lirai les poèmes de Lamartine que Liszt a mis en musique. Et voilà. Et donc Alexandre Palais jouera en miroir de ses pièces.
Et ça, ça aura lieu le jeudi 24 juillet.
24 juillet au Conservatoire, place du Concert.
Et comme chambre à part, c'est place du Concert, donc dans le Vieux-Lille. Et j'ai remarqué, ce sont tous les jeudis, en fait, du mois de juillet, à partir du 10.
Voilà.
10, 17, 24. Vous pouvez noter sur vos agendas.
31, 7, 8 et 14.
31 et après 7...
8. 8. Oui, 7, 8. Non, c'est parce que 7, il y en a un qui est... Non, le 8. Il y en a un qui est un peu excentré à Saint-Gain-Ouep, un récital de piano.
Ah, je l'ai pas vu, celui-là.
Voilà, qui est un récital qui se fera un petit peu dans la banlieue lilloise.
Ah oui.
Et après le 14. Donc effectivement, les véritables concerts à Lille, c'est le 10, 17, 24, 31, et ensuite le 7 et le 14.
Et le 8 à Saint-Gain-Ouep.
Donc le 8 à Saint-Gain-Ouep, et c'est une jeune pianiste qui a déjà fait... plusieurs fois des levées de rideaux.
Et c'est dans quelle salle, salle communale?
Ce sera, oui, ça s'appelle La Scène. C'est une salle de concert.
Donc c'est accessible.
Voilà, c'est accessible. Et donc avec un petit peu de fierté, c'est une de mes élèves qui est à la Hochschule de Cologne.
Ah oui.
Et qui marche très très bien, qui est même plus tellement à l'orée d'une grande carrière, mais qui a déjà un pied dans la belle carrière.
Et quel programme a-t-elle choisi?
Oh, ce sera assez classique, avec entre autres la troisième ballade de Chopin, et puis une sonate de Haydn.
Ah oui, c'est classique,
moins,
mais c'est...
Moins classique, moins joué, Et puis Alborada del Gracioso, de Ravel.
Oui. Très virtuose.
Voilà, et donc c'est un programme d'une quarantaine de minutes, c'est pas un récital
complet. Ah, mais je note, et...
Oui, oui.
Si tout va bien, j'y serai.
C'est sur le site, oui.
C'est dans la métropole.
Et puis c'est accessible.
Je peux m'y rendre avec Andy Paul. Donc
voilà, et puis il y a une rampe d'accès.
Ah ouais. Donc nous avons droit à des suites de Bach. C'est très classique, mais ce n'est pas souvent donné.
Oui, 3, 4, 5. Et surtout, c'est Alexander Dmitriev qui était le violoncelle solo des virtuoses de Moscou.
Ah oui, de Youri Bashmet.
Voilà, Youri Bashmet, et quand l'orchestre est arrivé en France et qu'ils ont voulu trouver un lieu de chute, ils ont été à Montpellier.
Montpellier, oui.
Ils étaient invités par René Koering.
Oui, c'est vrai, à l'époque.
Voilà. Et ils sont restés, beaucoup sont restés. Dmitriev est tout de suite, bien évidemment, reçu violoncelle solo à l'orchestre de Montpellier. Et il est resté là-bas.
Et Bashmet, il a quel âge maintenant? 80 et quel?
Oui, oui, oui.
Il joue plus.
Mais bon, ils sont plus, l'ensemble n'existe plus, Et donc, Dmitriev, je le rencontre et je joue assez souvent avec lui au Moulin d'Andé, toujours, puisqu'il fait partie des invités réguliers d'Alexander Palais. Mais c'est un violoncelliste extraordinaire. Et je vais le faire venir deux fois, puisqu'il va venir. On a eu la chance, malgré les difficultés, tu en parlais tout à l'heure, les difficultés financières pour les associations, nous, on nous a encore tiré une paire de milliers d'euros de subventions. C'est pour ça qu'il y a deux concerts en moins.
Ouais.
C'est pour ça qu'il n'y aura pas de dépliants cette année. Il y aura juste des petits flyers. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'affiches partout, parce qu'on n'a pas les moyens de faire les affiches.
Mais il y a le site internet accessible à tous. Donc, c'est Clé de Soleil, alors CLEF.
Oui, à l'ancienne. Mais il suffit de taper Clé de Soleil, CLEF, DESOLEIL. Et on tombe sur le site, et le site est très complet.
Ouais.
Et donc Dmitriev, j'ai réussi, malgré tout, à faire venir le quatuor Prajak,
ah, oui.
qui n'est pas des moindres des quatuors. Et puis, il y a beaucoup de nouveaux musiciens dans les Prajak.
Vous nous avez gâté l'année dernière avec le quatuor Talich.
Voilà.
C'était à la même église, d'ailleurs.
Non, là, ce sera au conservatoire, les Prajak.
Ah bon?
Oui. À l'église, ce sera les quatre saisons au premier concert.
Ah oui, pardon.
Donc, les Prajak, ils ont changé de musicien. Il n'y a que le violon solo qui est resté, qui est passé à l'alto.
Et donc, le
noyau, alors ils vont jouer, ils vont jouer dans leur arbre généalogique avec le Dvorak, le quatuor américain.
Ah, oui.
Et ensuite, le quintet à deux violoncelles de Schubert, dont Alexander Dmitriev fera le second violoncelle, celui qui a les pids dans le mouvement lent. Mm-hmm. Et ces pids sont en réalité, pour moi, des clous qu'on enfonce sur un cercueil, c'est quelque chose.
Magnifique quintet, vous avez un chambre à part qui le programme le 22 juin.
Ah,
vous avez une session de rattrapage si vous n'avez pas tout capté.
Voilà.
le 31 juillet, c'est plus loin. Et voilà. C'est place du concert à Lille.
Tout à fait. Et donc le premier, c'est à l'église, le 10 juillet, c'est à l'église Saint-André, rue Royale, tout au bout de la rue Royale.
Si vous n'avez jamais été à un concert de votre vie, commencez par un quatuor de Dvorak, le compositeur tchèque. Par des quatuors originaires de Prague, de République tchèque, c'est un délice. Ça fait des années que je me régale des disques du label Supraphone, où j'ai appris à... C'est avec l'Orchestre Philharmonique Tchèque que j'ai compris qu'un orchestre avait une sonorité propre.
Oui.
Parce que, sans être un technicien de la musique, que je ne suis pas, j'ai réussi à reconnaître des disques de l'Orchestre Philharmonique Tchèque.
Et ils ont encore leur personnalité, alors que dans le monde, dans le temps, on pouvait reconnaître l'Orchestre de Berlin ou l'Orchestre de Chicago. Tous uniformisent, et c'est dommage.
C'est terrible.
Même les orchestres russes n'ont plus ce vibrato, cette clarté. Ils deviennent européens, quasiment.
Oui, bien sûr.
Et alors on peut encore reconnaître la luxuriance de l'orchestre de Chicago grâce au cuivre.
La précision.
Voilà, grâce au cuivre. Et on peut reconnaître l'orchestre philharmonique de Vienne parce qu'ils ont des instruments anciens, ils ont les corps en fa.
Ils ont une clarté, une précision.
Boston, c'est beaucoup plus clair, mais quand l'orchestre de Boston était à son apogée, il n'y avait que des Français dedans.
Oui, c'est
c'était
vrai.
Il y avait des gens qui s'appelaient voisins, il y avait des gens qui...
Tortelier. Avec Kouzevski.
Voilà, tout à fait.
Et Charles Mitch, chef d'orchestre.
Donc, ils ont amené une sonorité française, une sonorité un peu claire et...
Oui, c'était impressionnant le nombre de Français qu'il y a. Et à propos d'Amérique, là aussi, on ne nous dit pas tout, comme on dit. Souvent, on est résigné, la France, ça ne va plus, on n'est pas reconnu à l'étranger. Sachez qu'il y a beaucoup de chefs d'orchestre français qui font des belles carrières à l'étranger, mais on n'en parle jamais.
Bien sûr.
Parce que ce n'est pas le sujet, la musique classique, et puis parce que, au milieu de toutes les nouvelles terrifiantes que l'on entend, un peu de musique classique avec des choses positives, Louis Langrée, qui dirigeait le Faust de Gounod, est directeur depuis plusieurs années de l'Orchestre symphonique de Cincinnati, je crois, l'avoir dit.
C'est ça, oui.
Mais,
et des chefs français en France, il n'y en a pas.
Et puisqu'on parlait de Prague et de la République tchèque, Emmanuel Villaume, chef d'orchestre français, est patron et directeur musical de la Philharmonie de Prague depuis quelques années.
Mais ils ne viennent pas en France. On se pose des questions.
Antoine Antinoglou, qui est un chef français d'origine arménienne, est directeur de l'Orchestre symphonique de Francfort, un des meilleurs d'Allemagne, après Berlin et Dresde et Leipzig. Et il est directeur musical là-bas. Mais on n'en parle pas. C'est la France. C'est comme ça.
Ben oui.
Stéphane Deneuve était à Glasgow, il était à Stuttgart. Maintenant, je ne sais plus.
Il n'est pas en Écosse ou...
Non, en Écosse, c'est fini. Il était à Saint-Louis aux États-Unis.
Oui.
Ah non, c'est...
Il était élève au conservatoire de Lille.
Oui, il était originaire de Béthune ou de...
Non, plus près, Roubaix ou...
De Tourcoing, je ne sais plus.
Ouais. Et oui.
Ah oui.
Donc le premier concert sera à l'église rue Royale, l'église Saint-André, où l'année dernière j'ai fait venir le quatuor Talich.
Ah oui.
Et sachez bien que c'est une acoustique extraordinaire. Ouais. On peut avoir peur d'aller dans une église, mais s'il y a un peu de monde, ce que je ne doute pas, comme l'église n'est pas particulièrement profonde, l'acoustique est extraordinaire. Ce n'est pas une réverbération de 6 secondes comme à Chartres. Donc, ce sera un régal pour écouter les quatre saisons. Et c'est Gauthier Doge qui jouera avec l'ensemble
régional.
Voilà.
Et l'ensemble La Notée, il est basé où?
La Notée, à Lille. C'est...
Ce sont des musiciens de...
Voilà, oui. De la région.
Ils appartiennent à d'autres orchestres
ou... Oui. Ils forment un ensemble pour ce concert.
Ils sont de l'orchestre de Douai?
Oui, il y en a de l'orchestre de Douai. Ouais. Il y en en a du...
Donc on peut dire qu'ils sont surdoués.
Voilà, ils sont... Ou alors basés à Douai, mais surdoués, je préfère. Et les quatre saisons, Gauthier Doge va les expliquer. Et c'est assez extraordinaire quand on a l'explication de ce type qui vient de faire les vendanges, qui est complètement bourré, qui titube, etc. Et de montrer l'exemple musical, on comprend tout. Quand la neige tombe et qu'on entend les flocons, mais quand on... tout devient visuel. C'est la première œuvre. C'est quand même, je veux dire, quatre concertos.
Hein, musique descriptive.
Mais la véritable... Alors, il y a eu d'autres musiques descriptives. Avant, on parle toujours de l'invention de la musique descriptive avec la pastorale de Beethoven.
Oui, ou avec la Moldau de Smetana.
Oui, mais ça, c'est plus tard. Mais dans les premiers, là, on se dit, là, effectivement, la pastorale. Oui, on entend les oiseaux, on entend le... Après, il y a Richard Strauss, après, il y a... Vivaldi, tout est vraiment descriptif.
Il y a un concerto qui s'appelle Le Coucou chez Vivaldi.
Oui, on les surnomme maintenant.
Après coup.
Voilà, oui, oui. Et donc, expliquer comme ça, j'ai fait une conférence avec Gauthier, là, sur les quatre saisons, et il montrait les exemples. Les gens sont sortis emballés et ont réécouté les quatre saisons avec une oreille totalement différente.
Alors ça, c'est le concert d'ouverture le 10 juillet.
Le 10 juillet.
Donc ça approche, nous sommes le 12 juin.
Oui, oui.
19, 26, 3 juillet, 10 juillet.
Oui, oui.
Dans
un mois.
Dans 4 semaines. Ça approche. C'est pour ça que c'est très bien que tu viennes maintenant.
Voilà.
Heureusement, parce que je n'avais pas beaucoup d'autres créneaux à te proposer.
Et après, on va quitter Lille pour aller, bon, pas très loin, hein, à l'église Saint-Nicolas d'Oiscal. Pourquoi ? Parce que Olivier Vernet, que je connais depuis vraiment longtemps, il était venu à Clé de Soleil en 2005. Donc, il était venu faire un concert en plein air, normalement. Et il s'est mis à pleuvoir, la pluie arrivait, il a fallu tout bouger, transporter l'orgue. Il était venu avec un orgue, j'allais dire portatif, mais un gros orgue. On a dû se précipiter au conservatoire, ça a été toute une histoire. Et donc là, il revient, il n'y aura pas de fuite normalement à la toiture de l'église Saint-Nicolas d'Oiscal. Et il va proposer, comme l'orgue est un orgue baroque, exceptionnel.
De quelle époque est le baroque ?
Oui, alors je ne sais pas l'histoire de cet orgue. Il faudrait que je m'arrangerais pour le relire.
Il a été restauré dans les normes.
Oui, tout à fait. Et il a enregistré là, parce qu'Olivier Vernet doit être dans le Guinness des records du nombre de CD enregistrés. Hein. Il doit être à 160, 170 CD.
Oui, mais le CD maintenant...
Et que des intégrales. Donc il y a une intégrale qui a fait parler d'elle et qui continue à faire parler d'elle. C'est son intégrale de l'œuvre de Johann Sebastian Bach, donc Jean-Sébastien Bach.
C'est bien qu'il l'ait fait il y a quelques années, parce que le CD actuellement...
Bah oui, c'est ça.
Maintenant, c'est le streaming maintenant.
Voilà. Et à Oiscal, il est venu à Oiscal pour enregistrer l'intégrale de l'œuvre de Buxtehude.
Oui, donc c'est vraiment un orgue exceptionnel.
Il le connaît bien, c'est un orgue exceptionnel et il va proposer un programme entièrement consacré à Jean-Sébastien Bach.
Voilà, donc on aura des suites de violoncelle de Bach, on aura des orgues de Bach. Et c'est à Oiscal, donc 11 rue d'Austerlitz, à Oiscal, donc le 17 juillet à 19h. Vous êtes nombreux.
Tout à fait, oui. Oui, c'est 19h ou c'est... Bon, faudra surveiller le site parce que je crois qu'il y a un décalage d'une heure pour celui-là.
C'est ce qui est marqué dans le...
Oui. Bon, je vais vérifier, mais de toute façon, il suffit de... Oui, en se renseignant au dernier moment pour y aller.
Jeudi 17 juillet, donc l'orgue à Oiscal. 17 plus 7 égale 24. Donc jeudi 24 juillet, vous dites tous les... En fait, c'est toutes les semaines.
Bah oui, tous les jeudis.
Tous les jeudis.
Tous les jeudis.
Comme Radio Campus, sauf qu'en juillet, il n'y aura pas d'émission.
Voilà.
C'est pour ça que
c'est
bien
qu'on prend le relais. Nous, on prend le relais. Ouais. Voilà.
Oui, enfin,
et ensuite, les Prajac, on en a parlé. Donc ça, c'est un événement, de faire venir les Prajac. C'est vraiment très bien.
Le 24 juillet, c'est...
Dmitriev, qui fera le quintet à deux violoncelles de Schubert, restera une semaine pour faire un récital avec trois suites de Bach la semaine suivante.
Donc attends, on a été un peu vite là. Le 24 juillet, j'en étais là. Donc c'est là que Alexandre Palais, le pianiste dont on a parlé, et toi-même en récital, jouait liste. Oui, on a parlé du concert, on n'avait pas dit la date.
Oui.
Donc notez tous les jeudis du 10 jusqu'au 14 août. Donc le violoncelle, alors ce sont des suites pour violoncelle seule chez Bach.
Oui, oui.
Avec Beethoven, on avait écouté les sonates pour violoncelle et piano, et les sonates pour violoncelle et clavecin, des sonates pour violoncelle et piano d'autres compositeurs. Là, c'est pour violoncelle seule.
Oui.
Donc je vous parlais de concerts où il faut une écoute très attentive, et là, il y a un seul instrumentiste qui joue, Donc l'écoute, en général, le public est très attentif et l'écoute est remarquable. Et c'est le silence environnant qui fait la beauté de la musique. Et je ne sais plus qui a dit qu'après une œuvre de Mozart, le silence qui suit est encore de Mozart.
Sacha Guitry.
Ah oui.
Oui, on ne croirait pas que ce...
Oh, c'était quelqu'un de raffiné, Sacha Guitry.
Oui, la preuve.
Ses airs de grand comique. Mais les suites de Bach, c'est vraiment une intensité avec un seul instrument, c'est extraordinaire.
Oui.
D'ailleurs, le grand violoncelliste Mstislav Rostropovitch les avait enregistrés intégralement dans l'abbaye de Vézelay.
Oui, mais à mon avis, un peu trop tard dans sa carrière.
Ah, dans sa carrière, oui.
Un peu trop tard.
Oui, mais bon.
Il a toujours attendu, il se disait qu'il n'était jamais prêt, il repoussait. Un jour, il s'est décidé, il a été s'installer dans ce sublime restaurant qui est à Vézelay. Il en a profité pour les enregistrer dans l'abbaye de Vézelay.
Il y a un très bel essai ou roman de Jules Roy.
Entre le diable, la rencontre avec... c'était avec Gainsbourg. Rostropovitch...
Oui, il raconte Vézelay et Rostropovitch.
Donc c'est... Oui, mais ça rencontre parce que Gainsbourg logeait dans le même hôtel.
Ah oui.
Oui, et donc je crois que le titre du livre, c'est Dieu, Rostropovitch, Gainsbourg.
Ah, Dieu, il y a quelque chose.
Oui, il y a quelque chose comme ça.
Il y a Dieu dans le titre, je ne sais pas.
Oui.
Et c'est vraiment Jules Roy, un écrivain connu, mais si vous avez le temps de lire, lisez ça. C'est vraiment intéressant. Voilà, on a fait le tour de la programmation. Donc c'est
non, le concert de clôture, le 14 août, parce que là, il y a deux jeunes. Un jeune qui s'appelle Pino et un autre Zokolai, donc Sokolai, il n'y a pas besoin de savoir d'où ça vient, c'est hongrois bien sûr, c'est un hongrois.
Ouais.
Et un programme par contre captivant, parce qu'il y a des choses incroyables, et on va entendre des choses de Liszt incroyables. Par exemple, ils vont commencer avec une pièce qui s'appelle Epithalam au mariage d'Edouard Remeny. Que personne ne connaît, et ils termineront par le grand duo concertant sur Le Marin.
Donc pour violon et piano. Alors de Liszt, c'est plutôt rare.
Violon et piano, ce qui est en général, certains surnomment ça la grande sonate pour. Mais c'est un grand duo concertant. Et entre deux, on aura la sonate Le Printemps de Beethoven et deux pièces de Ravel, La Vallée des Cloches, donc pour piano seul, et la sonate posthume pour violon.
Un programme varié.
Voilà.
Et de Liszt, donc c'est exceptionnel puisque Liszt a composé énormément de musique pour piano seul. Un peu pour piano et orchestre, des poèmes symphoniques, et un peu de musique de chambre, dont on connaît très peu de pièces.
Un peu plus qu'un peu, parce qu'on ne la connaît pas du tout.
Bah non, puis malheureusement, les mélomanes ne sont pas tous curieux, et les interprètes non plus, puisque peu de gens les jouent.
Ben voilà. Et là, ce sera une découverte pour tout le monde.
Oui.
L'Epithalam au mariage d'Edouard Remeny.
C'est jeudi 14 août à 19h,
ce sera le concert de
conservatoire, oui.
Parce qu'hélas, financièrement, on ne peut pas faire plus.
Bah oui, d'accord. Pourvu. Alors, parle-nous un peu des prix.
Alors le prix des places, bon, il a légèrement augmenté. Je vous dis, on tire sur tout. Donc, si vous prenez trois concerts, bon, c'est pas énorme, puisque si vous prenez trois concerts au choix, quel que soit le concert, c'est 50 euros. Donc, pour trois concerts, c'est pas cher. Le prix d'une place à l'unité est 18 euros cette année. La totalité des concerts, c'est 100 euros.
Oui, 100.
Voilà. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans et pour les élèves du conservatoire.
Et pour les jeunes de moins de...
Moins de 12 ans.
Oui, moins de 12.
C'est gratuit.
Pour un peu en haut.
Pour ?
Pour moins de 26 ou moins de...
Après, il faut regarder sur le site le détail. Je n'ai pas tout en tête, mais ça donne une idée sur le fait que le festival Clé de Soleil reste accessible pour un large public. Puisqu'après, il y a des réductions pour, pour des demandeurs d'emploi.
C'est la 24e édition. Et est-ce que tu as vu le public changer, s'accroître?
Oui, parce qu'on a eu un public, il ne faut pas non plus se voiler la face, on a un public en général assez âgé. Et puis, une partie du public ne vient plus. On a de plus en plus de jeunes depuis un certain temps. Donc ça, c'est bon signe.
Ça se renouvelle.
Ça se renouvelle, et ça se renouvelle par le bas, ça c'est pas mal. Il faut que ça continue comme ça.
Ouais.
Et on est dans un monde où, hélas, on consomme à la maison, et ça c'est la catastrophe du Covid. On n'a pas encore réalisé le dixième de ce que le Covid va faire. Et ouais. On est en train de le réaliser avec tous les faits divers absolument atroces qui se passent dans le pays et tous ces enfants qui ont été livrés à eux-mêmes pendant le Covid, oui, à la maison. Et...
Oui, enfin, pour moi, Méloman, j'ai senti que pendant le Covid, qu'il n'y avait plus de concerts. Pour moi, c'était vraiment...
Oui. Alors, les musiciens ont.
Mais quand c'est revenu, je peux dire, je me suis précipité.
Bien sûr, c'est une bouffée d'oxygène.
Ah
c'est
oui. Mais entre deux, vous avez YouTube, vous permet d'écouter.
C'est ça. Oui, et dans tellement mauvaises conditions, des conditions de son catastrophiques.
Oui, je sais.
Si on veut entendre le son de Dmitriev au violoncelle seul, mais il a un violoncelle absolument fabuleux, il a un son, une sonorité qui est à se mettre à genoux, Dmitriev. Donc, il faut venir l'écouter.
Non, puis il y a la proximité avec les musiciens.
Bien sûr, surtout dans la salle du conservatoire.
Et surtout, d'aller au concert permet de voir le public qui écoute ces concerts. Et vous verrez que ce ne sont pas du tout des gens distants, hautains. Et...
Bien sûr que non.
Au contraire, ils sont communicatifs, vous pouvez échanger avec eux.
Et après le concert, les musiciens sont accessibles, ils sont dans le hall du conservatoire, vous pouvez aller discuter avec eux.
Les féliciter, leur demander quand est-ce qu'on peut les revoir.
Bien sûr.
Et puis le public, vous pouvez... Si vous avez plusieurs concerts, vous les voyez d'un concert en concert. Vous pouvez trouver des amis et puis vous avez au moins... Et au moins, si vous aimez la musique classique, en allant à des concerts, vous avez des chances de rencontrer des gens qui ont ce goût-là.
Tout à fait.
Donc il y a toujours moyen.
Et il faut y aller. Il ne faut pas se contenter de... J'étais au Louvre il y a 15 jours. Il y a une chose qui m'épate au Louvre quand même, c'est d'avoir... quel que soit le moment, 400 ou 500 personnes qui font la queue pour y entrer.
À Paris,
ça me paraît bizarre quand même qu'autant de personnes puissent passer l'après-midi pour aller regarder des peintures, des sculptures. Je suis surpris. Moi, c'est ce que j'appelle un peu le signe extérieur de culture.
Quelle part de touristes, quelle part de...
Oui, il y a des touristes, mais il y a beaucoup de Français. Et donc, je vais dans la salle, parce que j'étais avec mon petit-fils, et je vais dans la salle où il y a la Joconde, parce qu'il voulait voir. Il y a, on va dire, 250 personnes dans la salle qui... avec des selfies à peu près 40 mètres de la Joconde, qui n'est pas un grand tableau, font des photos. Les autres ont le bras tendu en l'air pour essayer de faire des photos avec tous les gens qu'il y a devant. C'est hallucinant. Et moi, je suis debout, je regarde la Joconde, je suis à 45 mètres. Et puis, je fais un demi-tour. Et là, il y a les noces de Cana. Personne devant les noces de Cana. Personne, pas un chien devant les noces de Cana.
Rappelle-moi un tableau de...
Véronèse.
Ah oui.
Puisqu'il y a Vinci. Et personne devant les noces de Cana.
Oui, d'accord, parce que c'est la Joconde. Oui.
Alors qu'il y a la Joconde de l'autre côté. Et tout le monde vient, à mon avis, pour trois choses. La victoire de Samothrace.
Je l'ai vu, quoi.
Je l'ai vu, j'y étais.
J'y étais.
Et sûrement qu'en rentrant, ils mettent le billet du Louvre sur le miroir de l'entrée pour montrer qu'ils y étaient. C'est pas possible autrement. J'ai vu des expositions à Beaubourg où on voit des gens avec le sac à dos, la bouteille d'eau, et ils foncent dans l'allée centrale en regardant à gauche, à droite. Là, j'en ai vu le faire au pas rapide avec le téléphone qui filmait tout ce qu'il y avait sur la gauche ou tout ce qu'il y avait sur la droite. Alors qu'il faut s'asseoir. Moi, je peux pas faire plus qu'une salle quand on est dans un musée. On peut regarder trois Vermeer et puis, mais on en a assez, c'est tout, et on revient pour... Non, c'est une culture qui est de la consommation, comme ça.
Tout se consomme, oui.
Voilà, alors venez au concert et ne faites pas cette espèce de truc, j'écoute pendant le quatuor à deux violoncelles de Schubert. Oui, je connais, parce qu'on a écouté 40 secondes sur YouTube. Faut venir écouter ou faut venir ou quelqu'un qui connaît un livre parce qu'il a lu la quatrième de couverture.
Oui, voilà.
Et qui n'ira pas plus loin.
Oui, on abrège tout.
Voilà.
On escamote.
Donc là, il faut prendre le temps, je l'ai toujours dit, le temps d'arriver, de s'installer, de se préparer psychologiquement à écouter un concert.
Donc le public change un peu, il peut s'accroître d'année en année.
Ouais.
Et les subventions, nous verrons, mais bon, peut-être que...
Oui. Ça reviendra un peu l'année prochaine, on verra bien.
Oui, ou que simplement on pousse les personnes à la curiosité.
On croise les doigts.
Puis on parle beaucoup de l'éducation et de l'ouverture d'esprit des jeunes, mais même les moins jeunes, il faut travailler dessus, parce que moi je suis atterré par le manque de curiosité de toutes les générations.
Le manque de ?
Curiosité de toutes les générations.
C'est ça le pire.
J'ai 66 ans, j'en ai vu beaucoup, Eh ben, j'organise des scènes ouvertes. Et j'en ai quelques-unes, des personnes âgées de 80 ans. Alors, dans la scène ouverte, on lit des textes, où on chante des chansons. Alors, les chansons, ça leur va, mais j'aime pas trop les textes, parce qu'il faut réfléchir. Mmh. Ça me prend la tête, quoi. Non, mais des gens de 80 ans. Et ouais. Après, ils disent, je m'ennuie, je vais plus, j'ai plus envie de rien, mais non. Chose de nouveau, on connaît pas. Mmh. J'en ai vu assez, ou... Même quand j'étais dans une résidence après le décès de mon épouse, senior service, je lisais dehors sur le banc. Et ben, les gens, personne ne disait qu'est-ce que vous lisez, c'est intéressant.
Ouais.
Ils disaient, ça vous passe le temps. Donc en fait, même, c'était une résidence assez chère, j'ai pu me l'offrir en fin de carrière, mais bon, j'ai dû changer avec la retraite. Et là, donc c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent, et ben ils s'emmerdent.
Bah oui.
L'esprit n'est plus du tout ouvert. Alors c'est la clé de la longévité, c'est la curiosité.
Ben, ceux qui arrivent en retraite et qui n'ont aucune passion, mais c'est dramatique.
Oui, c'est ce qui se passe.
C'est dramatique.
Et c'est là qu'on entend, on fait aller.
Moi, je vais bientôt arrêter d'enseigner parce que bon, j'en ai un petit peu assez, dans le sens où je n'arrive plus à faire travailler les élèves. C'est quelque chose qui c'est une mission impossible
même
de
en
faire
musique.
Travailler les jeunes.
Même en musique. La musique d'ensemble, il y a quand même...
Ça dépend où, mais bon, là où je suis, moi, je n'y arrive plus. Mais je sais que je ne vais pas m'ennuyer, je veux dire, avec toutes les conférences que j'ai à préparer, deux instruments à travailler, l'orchestre dont je m'occupe, le festival, concours international pianissima, ampleur. Cette année, il y avait 17 pays représentés quand même.
Alors deux petits mots sur cet orchestre que j'ai découvert.
Ah, l'orchestre, bon, c'est un orchestre d'amateurs et... par contre, il a une spécificité par rapport à ce qu'on appelle les harmonies dans le coin, c'est que...
Donc il est basé
à Villeneuve-d'Ascq.
Où nous sommes.
Voilà. Et c'est un orchestre qui ne fait que de la musique classique. Donc on fait nos transcriptions nous-mêmes et on ne joue que des œuvres classiques. Donc les gens qui viennent au JEH, ils savent dès le départ que ce ne sera pas pour jouer Star Wars.
Ils sont combien
pour jouer à un truc de Claude François.
Ils sont combien?
On est au complet une trentaine.
Ah oui. Est-ce qu'un petit noyau avec toi pourrait venir un jour faire une émission, se présenter?
Il faudrait trouver la place pour jouer ici. Ça
va oui, à faire un grand.
Oui, pour s'installer.
Ou une émission à l'extérieur, mais bon, je ne sais pas. Ah oui, pourquoi pas, enfin, vous êtes invité. Ou alors que quelques-uns viennent avec toi, vous emmenez des enregistrements de ce que vous faites.
Oui, peut-être, oui.
Puis bon, tu connais un peu les émissions maintenant.
Bien sûr, oui.
L'esprit de l'émission, donc... Tu leur en parles, si ça peut...
Et Pianissima, c'est un concours de piano, là. Donc cette année, au jury, depuis 4 ans, comme président du jury, on a la chance d'avoir Cyprien Katsaris.
Ah oui, il vient pas cette année.
Si, il est venu, le concours a eu lieu
en... Non, mais... Okay.
Ah non, il vient pas tous les ans.
Oh.
Il était directeur là, du jury. Il y avait Alexander Palais, qui était au jury également. Sa femme, qui est prof de piano à New York.
Ah oui.
Donc il y avait du beau monde. Tristan Pfaff était au jury également.
Tristan Pfaff,
oui. Et on touche là 80 candidats venant de 15 ou 16 pays, dont énormément, on va dire, de Japonais, de Chinois et de Coréens.
Ah oui, ils font ça.
Voilà. Ils font ça, ils travaillent. Et les petits Français les regardent en disant bah, pourquoi il a eu le prix. Bah oui, c'est parce qu'il en fait autant par jour.
La dame qui, sur mon générique, dit Radio Campus, c'est la petite fille de Jacques Delaprelle. Tu la connais peut-être?
Ah, Jacques Delaprelle, oui.
Non, mais Alix Delaprelle-Lévesque.
Oui.
Elle a fait jouer les œuvres de son grand-père par des étudiants de Marie-Catherine Giraud de l'École normale de musique en Chine. Donc elle était en voyage.
Oui, bah, Gauthier Doge est parti en Chine.
Oui, bah, elle était avec elle.
Voilà, je sais bien. Oui,
mais ils étaient en voyage en Chine, elle ne revenait pas de la curiosité du public.
Bah, bien
des
sûr.
Des musiciens et du public.
Bien sûr, évidemment.
Sur notre musique occidentale qui est décriée.
Évidemment.
Chez nous.
Et eux, ils font de la musique classique depuis quand?
Voilà.
Nous, est-ce qu'on saurait jouer de la musique chinoise?
Non.
Ben non.
Ils sont venus, ils ont appris à l'École normale de musique de Paris. Et ils jouent là-bas, puis les gens sont friands, ils ont envie de découvrir.
Et ils sont à un niveau l'année dernière,
Cyprien piano,
Katsaris, on avait avec Cyprien, puisque moi je suis président du concours, on est arrivé à mettre 4 fois 20, la note 20, ce qui ne se fait jamais dans un concours, puisqu'on part sur l'idée que la perfection n'existe pas.
Oui, c'est incroyable.
Mais quand on a eu une telle perfection, et un Français est arrivé derrière, dans les derniers candidats, dont on commence déjà à parler, puisque un an après le concours, il joue à la Roque d'Anthéron et lui, il a eu 21. Mm-hmm. On a dû mettre 21 sur 20 parce que c'était. Mm-hmm. On était tous totalement scotchés.
Puis l'engouement des Asiatiques pour cette musique classique.
Bah oui.
japonais, ben oui, les oui. chinois. C'est extraordinaire.
Alors Lang a été un détonateur, puisqu'ils ont tous vu qu'on pouvait faire une carrière absolument somptueuse.
Et puis en chef d'orchestre, c'est Ozawa voilà. le déclencheur.
Oui, et puis quand tu vas dans un... Tu loues un appartement en Chine, il y a une cuisine équipée et il y a un piano. Ça fait partie de l'ameublement traditionnel des appartements.
Il y a un piano comme nous.
Oui.
Oui, pas un piano
Et il y aurait en Chine de pianistes qui jouent, c'est-à-dire qui font carrière ou qui enseignent ou qui sont très grands étudiants, 60 millions de pianistes, autant que de Français.
Et des filles comme des garçons.
Oui.
Ouais. Alors là aussi, je ne manque pas l'occasion quand j'ai une compositrice. Je profite de dire, vous voyez que la musique classique, ce n'est pas une musique de mâle blanc, comme certains disent. Bah, les Chinois qui s'intéressent, ce n'est pas une musique de mâle blanc.
Non, non.
Il y a des filles qui en jouent. Non, mais il y a tellement de clichés de la part de certains qui n'y connaissent rien. Il nous faudrait croire que la musique classique, c'est une musique enfermée sur elle-même. C'est au contraire une des musiques les plus universelles qui soit.
Mmh.
Elle est jouée dans le monde entier, et puis elle existe toujours, puisque par les Vivaldi, c'est 1600 et quelques. On est en 2020.
Ben oui. Et les quatre saisons existent toujours.
Tous
ceux qui veulent continuer cette conversation viennent nous voir à Clé de Soleil, puisque toi, tu y es à chaque fois.
Oui. Ah, moi,
et moi, j'y suis à chaque fois aussi.
J'y viens à chaque fois. Je réserve tous mes soirs, tous mes jeudis soirs. Là, nous allons devoir arrêter notre discussion, puisque place un peu la musique. Donc après l'Équateur à cordes de Beethoven, qui ont suivi d'autres parties de l'œuvre de Beethoven, j'en suis sur les musiques d'Ossène. Nous avons écouté une bonne partie de la musique d'Egmont. L'autre jour, nous avons écouté les créatures de Prométhée. Et là, aujourd'hui, je vous propose une musique de scène un peu particulière que Beethoven a écrite en 1815. Alors, en 1815, il a déjà écrit ses 8 premières symphonies sur les 9, donc il est vraiment très armé pour l'orchestre. Il connaît très bien son orchestre. Par contre, sa surdité est bien avancée. Mais il écrit quand même cette musique de scène qui s'appelle musique de scène pour le drame, une pièce de théâtre, Léonore Prohaska. Alors, Léonore Prohaska, c'était la fille d'un soldat prussien, élevée dans un orphelinat militaire après la mort de sa mère. Alors, prussien, c'est allemand. Hein. Elle fut l'une des nombreuses femmes allemandes à combattre pendant les guerres napoléoniennes, bien que la plupart d'entre elles aient été renvoyées de l'armée lorsqu'on a découvert qu'elles étaient des femmes. En 1813, Léonore Prohaska se déguisa et rejoignit le corps franc de Lutznow sous le nom d'Auguste Renz. C'est déguisé en homme, en soldat. Servant d'abord comme tambour, puis dans l'infanterie, grièvement blessée au combat, elle mourut 3 semaines plus tard. Donc c'est une sorte d'héroïne. À sa mort, elle fut honorée comme une héroïne chaste à la Jeanne d'Arc. Et la Jeanne d'Arc de Potsdam, on l'appelait. Donc une héroïne féminine. Et Beethoven, je vous rappelle qu'il était un solitaire résilient, qui se battait, adorait ce genre de héros, comme Egmont, comme Coriolan. Et donc il a eu envie d'écrire une musique sur le drame de l'écrivain qui avait écrit ce texte. C'est Johann Friedrich Duncker. En 1814, l'écrivain Johann Friedrich Duncker accompagna le roi de Prusse au congrès de Vienne et demanda à Beethoven de composer la musique de scène de sa pièce Léonora pour Aska. La pièce ne fut jamais jouée. Le sujet avait déjà été dans la Jeanne d'Arc de Potsdam, de Piwald, et joué cette année-là. Alors la musique de Beethoven a été quand même composée. Elle comporte 4 parties. Un chœur, vous allez voir, des très beaux chœurs allemands, des chœurs de la radio allemande, Berliner Rundfunk Chor. Le titre Wir bauen und sterben, nous construisons et mourons. Une romance avec une cantatrice qui sera la cantatrice américaine Sylvia McNair. Donc romance, Es blüht eine Blume im Garten mein. Une fleur fleurit dans mon jardin. Un mélodrame. 3 et une marche funèbre. Voilà, cette musique de scène. Claudio Abbado, donc Sylvia Mattner, soprano, et une récitante, les chœurs de la radio allemande, et l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par le chef italien Claudio Abbado, 1933-2014, qui a succédé à Herbert von Karajan à la direction de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, de 89 à 2002.
Der Tempel der Freiheit.
Der Tempel der Freiheit.
Der Tempel der Freiheit. niemanden Menschen geschlecht, das Leben, die Freiheit. Das Leben, die Freiheit. Das Leben, die Freiheit. Das Leben, die Freiheit. Froh sind wir dem Tode, froh sind wir dem Tode. Ins bleiche Gesicht, es ruft uns zum Kampf des gerechten Gericht, zum Kampf für Freiheit und Liebe. Zum Kampfe für Frauen, zum Kampfe für Frauen, zum Kampfe für Freiheit und Liebe.
Sie gewunden. Es waren dein zwei Blumen für Liebe und Treue. Jetzt kann ich nur Totenblumen dir weihen. Doch wachsen an meinem Leichenstein Neue.
Voilà, classique sans complexe, Radio Campus Lille. C'était la musique de scène pour Léonore Prohaska, une sorte de Jeanne d'Arc allemande. Alors W0096, alors excusez-moi pour mon allemand, Ohne Opus Zahl, ça veut dire sans numéro d'opus. Donc Beethoven n'a pas publié, comme ses autres œuvres, avec un numéro d'opus. Je vous rappelle que le numéro d'opus correspond, et le numéro dans une série quatuor ou symphonie, correspond pas à la date de composition, à la chronologie de la composition, mais à la chronologie des publications. Donc là, c'est la cantate Léonore Prohaska, je vous l'appelle, P-R-O-H-A-S-K-A. Alors, pour les nouveaux auditeurs, j'appelle beaucoup de mots, de noms. Pourquoi ? Parce que classique sans complexe, je vous donne des clés. À vous d'ouvrir les portes. Donc, je vous donne ça, parce qu'avec les moteurs de recherche, bah, vous mettez ce que je viens de vous dire dans la case d'un moteur de recherche, dans la fenêtre d'un moteur de recherche sur YouTube, et vous pourrez écouter à votre aise cette musique et beaucoup d'autres. Voilà, donc c'était cette musique de scène, dans la série des musiques de scène. La semaine prochaine, il y aura une émission particulière, et la semaine suivante également. Et n'oubliez pas le festival Clé de Soleil, donc du 10 juillet au 14 août. Alors je tiens à remercier notre invité, Denis Simandi, qui nous a apporté beaucoup de matière sur la musique et sur la vie de la musique dans notre pays, autour des concerts et de leur organisation. Merci beaucoup, Denis.
Moi, je te remercie beaucoup de cette invitation, parce que pour nous, c'est fantastique de pouvoir parler de ce festival. Et ouais. Voilà, grand merci à toi.
Voilà, et merci. Et vous pouvez enregistrer le replay. Et écoutez, pour vous, auditeurs, vous pouvez réécouter le replay. Bon, et pour le programme, ne cherchez pas de dépliants, il n'y en aura pas. Mais vous pourrez, Clé de Soleil, C-L-E-F de Soleil, Lille, vous aurez tout le programme dont nous avons parlé. Ce sont tous les jeudis. Et j'espère vous retrouver en concert. Alors je vous rappelle, si vous venez en concert et que vous avez entendu l'annonce par cette émission, que vous voyez un sexagénaire 66 ans en fauteuil roulant, c'est votre animateur, venez vers moi, dites que vous avez écouté, que vous êtes venu au concert suite à l'émission, ben vous aurez gagné pour la rentrée de participer à une émission en direct pour donner vos impressions de ce concert. Voilà, je vous laisse tous. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.